Bonjour à toutes et à tous, spécial championnat du monde de vitesse moto. Au menu de cette émission aujourd'hui, un championnat qui s'est déroulé en 22 manches réparties sur 5 continents et qui a commencé le 28 février en Thaïlande et qui va se terminer le week-end prochain, 16 novembre à Valence. Pour en parler avec nous, nos trois passionnés, vous les connaissez si vous écoutez régulièrement la radio, donc des passionnés de sport mécanique, Nicolas Poiret, salut Nico.
Salut Amiche.
Ouais, voilà. Jean-Pierre et alors Jean-Pierre dit Balou. Salut Balou.
Salut Amiche. Salut à tous.
Et Claude Bonduel. Alors Jean-Pierre Bonduel et Claude Bonduel. Bonjour Claude.
Salut.
Voilà, vous allez bien?
C'est bon, ah oui, c'est bon.
Ouais,
c'est
bien. Ouais. Très bien.
Bon, je me permets, écoutez, de présenter aussi nos invités tout de suite. Hein, voilà. Alors nous avons Bernard Faux qui est juste en face de, qui est sur ce plateau radio. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Très bien, quand je vais dans le Nord, ça va toujours.
Ouais, très bien, voilà. Donc, on va discuter un Grand Prix moto. Hein. Ah. Alors, je rappelle que tu es un ancien pilote hein, des années 70-80. Hein. Tu as participé à ce fameux championnat du monde qu'on appelait le Continental Circus à l'époque. Hein.
Ouais. Oui, l'Europe seulement.
L'Europe, oui, ouais. Parce que moi j'ai 5 continents. Mais avant vous n'alliez pas sur les 5 continents.
Non, on était allé une fois au Venezuela, une fois en Argentine, une fois en Afrique du Sud, mais ça se contentait.
Voilà.
Situer dans l'Europe.
Il n'y avait pas l'argent aussi pour aller, pour faire un peu toutes ces,
non.
Tous ces déplacements. Voilà.
Non.
Voilà. Et l'autre invité, c'est Miguel de Kayser. Miguel, bonjour.
Bonjour, la Miche.
Ah, toi, t'es spécial. Toi, t'es un écrivain.
Écrivain, c'est un bien grand mot, mais disons qu'on a travaillé sur un beau bouquin. On est trois co-auteurs.
C'est une Bible, c'est incroyable. Ça s'appelle The Elite Grand Prix Riders.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est 480 pages consacrées à 2037 pilotes qui ont marqué des points en championnat du monde depuis le début du championnat,
tout à fait.
En 1949 à 2024.
2024, pour faire les 75 ans de...
Ah, 2024. Moi, j'ai mis 2024, c'est 2004.
2024.
2024, hein, voilà.
Ça fait 75 ans.
Mais c'est un boulot de titan, ça.
C'est plus de 2 ans de travail. Travail intense, de recherche, de vérification.
Vérification, oui. Croiser les infos. Hein.
Croiser les infos, les corriger, parce qu'il y a beaucoup de fautes qui traînent un peu partout. Puis la collecte des visuels. On a quand même plus de 30 photographes internationaux qui ont travaillé avec nous pour fournir la banque d'images. On a plus de 3000 photos dans le bouquin. Donc, ouais, c'est un... C'est plus de 2 kilos de...
C'est 2 kilos de papier.
2 kilos de papier, voilà. D'informations.
Et donc, voilà. Il vient de sortir, vous l'avez... C'est...
Il est arrivé chez moi mercredi soir.
On sent encore un petit peu l'encre. Hein.
Et encore chaud.
On sent l'encre, Miguel.
L'encre fraîche.
C'est du vrai papier. Hein.
C'est du vrai papier, c'est de la vraie encre et c'est des vraies informations.
Moi, tu nous expliqueras un petit peu comment vous avez travaillé là-dessus, parce que moi, je suis épaté quand même. Il y a combien? 2 ans, 3 ans?
Plus de 2 ans de travail.
Plus de 2 ans de travail. À 3 personnes.
Ouais, avec mes deux collaborateurs, Arnaldo Wittenberg et Patty Lane. Donc à nous trois, ben on a conçu ça.
On les connaît.
Ah ben voilà.
Voilà, ça c'est le sommaire du magazine de la moto sur Campus Lille qui a lieu tous les dimanches de 11h à 12h30. On salue Laurent à la technique. Salut Laurent. Et puis on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite!
Thank you.
about how you saved my life. I wanna talk tonight about how you saved my life. About how you saved my life. About how you saved my life. About how you saved.
Bernard, ça t'a plu ce tour de chauffe, un peu le menu là,
ça démarre pas mal, ouais, ça démarre...
un peu surpris, j'ai l'impression.
Non, mais il y a la pression, ça va.
Ouais. Bon, ok, d'accord.
Moi, depuis les essais...
Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, spécial moto championnat du monde de vitesse. C'est pas encore terminé, hein, Nico, il reste encore deux épreuves.
Oui, c'est bon.
Une aujourd'hui et une le week-end prochain, là, à Valence, ce sera le final.
Ouais, c'était une saison MotoGP un peu atypique hein, quand même. Deux frères aux deux premières places.
C'est Marquez GP.
C'est Marquez GP. Sur la même moto et la moto avec un an de différence. Ouais. Et puis une fin de saison quand même sans le champion du monde 2025 ni le champion du monde 2024. Hein, donc c'est quand même atypique. Hein. Mais bon, et il reste la troisième place à distribuer.
Oui.
Avec trois pilotes possibles pour cette. Pour cette place, hein, puisqu'en fait il y a Banaya, Bezeki, et puis Acosta, il peut encore y prétendre si ça marche pour lui sur les deux derniers Grands Prix.
Et si les deux autres ne marchent pas bien.
Oui, voilà, exactement.
Ouais. On ne sait pas, hein, Nico, parce qu'en fait cette émission a été enregistrée hier.
C'est ça.
On ne connaît même pas la grille, hein, la grille de départ, hein, donc on ne peut pas donner de.
Se fait pendant qu'on fait l'émission. Ouais,
voilà, elle se fait, voilà. Ouais. Pour une petite précision, voilà.
On sait aussi qu'il y a Nicolas Boulega là, qui s'est vu récompensé de son titre en Superbike pour faire un remplacement de Marc Marquez dans le team officiel en MotoGP.
Ouais.
Donc c'est toujours intéressant de voir un pilote qui vient d'une autre catégorie, voir comment il s'adapte, hein, parce que la grosse différence apparemment, c'est les pneus. Hein, de Michelin à Pirelli, c'est très compliqué.
Différent, ouais.
Bernard, qu'est-ce que tu en penses ?
Quelle importance. Un livre de chance.
Bon, ça, non mais c'est bon, ça a bien changé quand même.
Non,
en 45 ans de
ça,
course.
C'est un long débat, c'est le sujet même d'un film quasiment. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport même aux saisons passées de MotoGP, là, on a une saison qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour moi, la course a toujours été... Enfin, quand elle... au mieux de sa condition, c'est toujours un duel. Et là, on a vu l'absence totale de duel. Mmh. C'est-à-dire, il y a un pilote devant, ouais. Comme à l'époque, exactement, où Agostini roulait avec les MV contre les monos, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans le Continental de la Pérouzas, ouais. C'est-à-dire qu'il se battait contre lui-même, il se concentrait pour faire des chronos, il allait gagner au Titi quand même, il ne faut pas oublier qu'il était toujours au top, mais il n'y avait pas de duel. Ouais. Et la course, j'ai envie de dire, les compétitions de sport, que ce soit en vélo, en Formule 1, en football, même les duels, je veux dire, les derbies, enfin bref, c'est fondamental. Quoi. Parce que c'est mythique hein, quand on rappelle Achille, Hector qui se battent à Troyes. Et là, il y a eu 0-0 duel.
Oui, ouais. C'est pire que ça parce qu'en fait, il y a les deux frères Marquez qui se font la courte échelle. Ouais, hein, on l'a vu avec quand ils se protégeaient pour les pneus qui chauffaient trop. Donc ils se laissaient passer, ils se repassaient. C'est un travail d'équipe presque.
Ouais. Je voudrais revenir un petit peu sur le règlement là, des pneus. Là. Alors le premier, il sent que c'est pneu chauffe, donc il va dépasser le, il risque d'être pénalisé. Non, donc il demande au second de passer pour que. Et imagine que le second ne veut pas dépasser. Il dit finalement tu te démerdes. Voilà.
Ça nous montre les limites du, enfin le conflit entre technologie et oui, sport et spectacle.
Tout à fait. Ouais.
C'est-à-dire que la technologie façon spatiale, ça nous intéresse beaucoup moins que la bagarre des pilotes. Mmh. Et là, ça prend le dessus, comme ça a été le cas en Formule 1. Ouais. Donc, c'est le règne des ingénieurs. Ils s'amusent beaucoup, mais je vois pas l'intérêt. Déjà, ce qui a changé le principe monomarque en pneu, ça, c'est quelque chose qui est un peu contre la compétition. Oui. Mais ça montre bien qu'on est rentré dans le commercial. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui paye et qui dit, bah là, je ferai ma publicité sans danger. Sans danger, puisqu'il n'y a pas de concurrence.
Il n'y a pas de concurrence. Ah,
donc, ça montre bien la financiation, la commercialisation du sport et de la compétition. Donc, après, les détails, parce que ça serait sans limite, hein, où ils vont aller avec la technologie. Donc, j'ai envie de dire, c'est ridicule.
Bon, la suprématie de Marc Marquez. Pour les spectateurs, c'est un peu. C'est lassant, quoi.
On va pas lui en
parce
vouloir.
Parce que tu dis, j'ai même pas allé regarder le Grand Prix. De toute façon, je sais qu'il va gagner.
Ça fait 5 ans qu'il galérait pour revenir à son niveau.
Mais je veux dire,
c'est extraordinaire ce qu'il a fait.
Pour le spectacle,
c'est extraordinaire ce qu'il a fait.
Et surtout, ça
amène. C'est bien d'avoir quand même 2-3 pilotes qui se battent pour dans le dernier tour, en Balou.
Non, mais oui. Moi, c'est vrai que Marquez, il est revenu de. On croyait pas qu'il serait à ce niveau-là. Il y en a beaucoup qui croyaient, mais c'est hallucinant ce qu'il a fait. Au niveau physique, c'est hallucinant.
Oui, opéré 2 fois à cause de son bras, là, franchement.
Ouais, 5 ans sans pouvoir vraiment participer normalement, c'est extraordinaire.
Mais ça, je ne conteste pas le fait que. Et en plus, il change d'écurie. Hein, et apparemment, il a. Enfin, moi, je ne sais pas. Il gagnerait moins d'argent chez Ducati que chez Honda.
Non, mais déjà, pour généraliser ce qu'il a fait, c'est unique. Il n'y a pas d'équivalence. Oui. C'est-à-dire de changer, de descendre d'une écurie d'usine à une écurie satellite. On n'avait jamais vu ça. Et ensuite d'avoir passé autant de temps sans bagarrer en tête, donc en perdant du rythme, en vieillissant, parce qu'il a 32 ans,
ça fait 50 plus.
Ça fait combien d'années qu'il est sur le fil du rasoir ? Et lui, on peut parler de ça, parce que vu le nombre de chutes. Ouais. Donc, en effet, je pensais qu'il allait à nouveau être devant, qu'il allait gagner des courses. Mais de cette manière-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parié.
Exactement. Oui,
c'est vrai. Et c'est juste. Là, il rentre dans l'histoire, dans le panthéon des grands pilotes.
Je suppose, Bernard, que tu serais encore sur les circuits à l'heure actuelle. Ce ne serait pas énervant pour toi de dire, de toute façon, il n'y a rien à faire. Je ne pourrais pas finir premier parce que de toute façon, il est plus fort que moi.
Quand tu es sur les circuits, si tu es énervé par ça, il vaut mieux rentrer chez toi déjà. Parce qu'il y a toujours un moment qui est plus fort que toi.
Oui,
c'est le but. Hein.
Et même les plus grands champions ont connu ça. Donc à une époque quand il y avait pour certains c'était Agostini, quand ensuite il y a eu Barrichi, ensuite quand il y a eu Kenny Roberts, tu dis bon, on fait pas le même sport, mais des fois je vais le suivre, des fois je vais même le battre, ce qui m'est arrivé avec Barrichi. Kenny Roberts, non, c'était même pas la peine, il était tellement au-dessus. Donc j'ai vu ce que c'était, et en même temps tu te dis bon bah je regarde aux essais, je suis à 5 dixièmes seulement de Roberts. Waouh!
C'est pas grand chose.
Champion.
Hein.
c'est monstrueux. 5 dixièmes, ça veut dire. C'est le type
qui te
double et tu ne suis même pas.
Ouais.
Quand les gens t'en parlent, ils sont tous en une seconde. Tu te dis, mais attendez, ils sont sur un tour en une seconde. D'abord, même un dixième, ça veut dire que tu n'es même pas dans la roue de l'autre. Tu vois, il n'y a pas duel. Il passe, il t'a mis quelques longueurs, et puis en général, au bout de quelques tours, t'es même plus à l'image, comme on dit. Parce qu'à 2-3 secondes derrière. Donc, les écarts, ils sont plus resserrés, mais c'est la même problématique qu'avant. Parce que, regarde, quand il y en a un qui est plus fort que les autres, parce que les motos sont plus proches, ils ont les mêmes pneus, et n'empêche qu'il s'en va quand il veut, il dit salut, on se retrouve sur le podium pour les deuxièmes, troisièmes. Donc, ça veut dire que ça ne change pas.
La surprise, c'est le frangin Marquez, Alex. La surprise, on pensait pas le retrouver à deuxième championnat cette année.
Oui, je pense qu'il a pris beaucoup de son frère quand ils ont été dans la même équipe l'an dernier. Et c'est là où c'est révélé, hein, parce qu'avant, c'était un bon pilote, mais sans être un pilote d'éclat comme il a été cette année. Hein. Là, ils se sont échangés carrément les deux premières places à chaque Grand Prix. Hein. Et là, une moto de l'an dernier.
Je pense que c'est la moto qui convient parfaitement.
Ouais. Mais d'année en année, quand tu regardes bien, Alex, chaque année, il est plus fort. Et en moto 2, c'est pareil. Au début, il allait mieux, puis plus loin, et puis plus près à être champion du monde en moto 2. Et il est passé en moto GP, et c'est pareil. Et d'année en année, il est mieux en mieux.
Et Marquez, c'est il progresse à chaque fois. Et ils apprennent à chaque fois, ils bossent ensemble, ils s'entraînent ensemble.
Ils savent très bien
donc
ce que l'autre
fait. Ils se connaissent par cœur. Ouais. Et là, ils se sont aidés. En début de saison, il y avait des gros problèmes ce règlement absurde sur la pression des pneus. Là. Et ils se faisaient à courte échelle en se laissant passer temporairement chacun pour refroidir leurs pneus, les réchauffer ou je sais pas, pour que la pression soit correcte. Et justement, pour être devant, alors que les autres pilotes n'avaient pas cette solution-là. Hein. Donc, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Hein. Bon, moi, la grosse interrogation, je ne comprends rien, c'est Bagnaia.
Oui, alors ça, c'est la surprise. Enfin, c'est une surprise, mais à l'inverse de Marquez.
C'est une mauvaise surprise.
C'est une mauvaise surprise, ouais.
Bah, c'est
pas possible d'être aussi relégué au classement comme ça.
C'est factuel, on le voit. C'est-à-dire, ça montre une nouvelle fois que la moto, comme certains sports, de toute façon, tout se passe dans la tête.
Ouais.
Et psychologiquement, le Marquez a montré une fragilité absolue. Il l'avait montré, je trouve, pour moi, il est devenu quand même deux fois champion, donc il va vite. Mais si vous rappelez-vous, souvent, des fois, il était en tête tout seul, puis il tombait.
C'est arrivé, c'est raison.
Et puis je rappelle que la première saison, il n'a rien fait du tout. Mais rien fait. Je me disais, mais comment ça se fait que ce type-là continue en moto GP avec moto et tout ça? Et finalement, bon, ça montre bien que le travail, à un moment, est toujours payant. La confiance est payante. Mais que lui, ce capital confiance, cette année, il s'est étiolé totalement à la vue de Marquez. Parce que c'est son premier concurrent, la même écurie. Là, tu ne peux pas dire... la moto et tout,
le coéquipier qui perturbe.
Ouais, surtout que le coéquipier ne devait pas être le même. Hein. À l'origine, ce ne devait pas être lui. Hein. C'est parce que c'est Ducati qui l'a choisi.
Ouais. Bah, c'est un peu logique. On peut avoir Marquez dans ton équipe.
Ouais. Alors, on a le même problème chez KTM. On va passer un morceau de musique, Bernard, parce que tu sais, on parle 10 minutes et après, on passe un morceau de musique. Le Mans. Le Grand Prix de France cette année, Le Mans.
Zarco.
Zarco.
Non mais là je te laisse parler.
Les planètes étaient alignées.
Qu'est-ce qui s'est passé, Le Mans là?
Non, il y a eu un, concours de circonstances.
Concours de circonstances.
Bon, réalité, c'est
incroyable.
Non, c'est pas incroyable. Des fois, avec le changement de, surtout au Mans.
C'est l'auto là. C'est un loto.
Oui,
c'est le loto.
Non mais non, il a joué. Bons chiffres. Il a joué au poker parce qu'il était loin aux essais.
Oui.
Donc, quand tu es dans cette position là, tu sais que tu vas pas gagner. Donc il s'est dit, la pluie, peut-être, je joue la carte pluie. Comme au poker, il avait une paire, il a dit, j'y vais quand même. Et puis ça lui a réussi. Mais quand j'ai vu au départ qu'il ne bougeait pas, il changeait les pneus, il avait mis les pneus pluie, j'ai dit, j'aurais fait pareil à son niveau. Il aurait été en première ligne, il aurait peut-être fait comme les copains. Mais en 11e temps, et ça lui a réussi. Mais avec une certaine réussite quand même, parce que bon, sous la pluie, il a prouvé qu'il était très très vite et son seul adversaire c'était Miller, et quand il est tombé, là il n'avait plus qu'à se concentrer à pas tomber.
Ouais.
Ça il sait faire, mais regarde le départ qu'il fait, encore complètement foiré, et il sort et tout.
Oui,
ça aurait pu s'arrêter là.
C'est clair, incroyable.
On l'a sorti.
C'est un beau souvenir.
Oui, mais quand tu pars dernier, je suis désolé. Tu es en position d'avoir tous les emmerdes, les autres.
Bon.
Parce que les fous furieux, ils disent pousse-toi, qu'est-ce que tu fous?
C'était un peu la cacophonie au Mans, parce que c'est stratégique avec la pluie et les changements de pneus. Mais par contre, il a confirmé le week-end d'après en Angleterre.
Aussi, c'est vrai.
Absolument, c'est son plus beau.
Je trouve
sa plus belle
à la régulière.
Mais comme souvent, comme je connais un petit peu Johan, j'ai dit, attendez, là, la suite, vous allez voir, je crains que...
Ah, mental, il se relâche après.
Bah, t'as vu, la suite,
c'est dur.
Il a été le plus mauvais, enfin, c'est lui qui a marqué le moins de points. Les 10 grands prix qu'on suivit, passant de la 5e place à la 10 ou 11e. Quoi.
C'est dur de réussir. Ça affecte.
Joël, c'est un surdoué. Et comme souvent les surdoués, ils ont du mal à gérer leur talent.
Bon, très bien. Moi, je propose de passer un morceau de musique parce qu'après, on va parler de la saison maudite de Martine.
Ouais, ouais. Non, pas grand chose à dire, malheureusement.
Hein, champion du monde l'année dernière. Mais
voilà. Allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. Ça, Bernard, je sais pas.
Un gros mono,
ça, non ? Attends, on va le rattraper, on va demander qu'il repasse.
Quelle année, ouais.
Alors, on est ça, Miguel. Ah non, bah, celui va nous dire, c'est le roi de la Bible. La
roi de
la. Parlons de micro, Miguel.
1952, peut-être.
Ah ouais, déjà, oh là, on se rapproche, hein, peut-être.
52.
Ok, voilà. Bah, spécial, le championnat du monde de vitesse, hein, l'émission des moteurs sur Campus Lille 106,6. Et je rappelle aussi www.campuslille.com, hein, ça c'est partout sur cette planète. Voilà. Très bien, on parle de la saison maudite de Jörg Martin.
Martin, ouais.
Bah oui, Martin, c'était compliqué. Il était blessé en début de saison. Ensuite, il s'est posé beaucoup de questions sur son contrat en essayant de. Ça aussi, il a été mal conseillé, j'ai l'impression. Parce que de remettre en cause son contrat parce que la moto n'était pas susceptible de gagner. Et c'est produit l'inverse en plus.
Oui, oui.
Donc, il était mal parti dans la tête. Il essaie de changer, de trouver une autre moto. Enfin, donc c'était une saison blanche pour lui. Il est revenu un petit peu, il est retombé.
Donc oui, c'est pas Martin. Il va avoir la même difficulté qu'a eu Marquez pour revenir. Je pense, hein, ça va être très compliqué. Hein. Une saison blanche comme ça, des blessures importantes et qui mettent du temps à se consolider.
Surtout que c'était le tout premier et speed. Au niveau des courses vitesse, c'était lui qui gagnait le plus de courses, hein, quand tu regardes l'année dernière.
Oui. Il peut même plus dire que la moto marche pas, puisque tout le monde avait Zeki qui lui montre que c'est pas le cas.
Il n'a pas pu faire les essais hivernaux parce qu'il était blessé. Quand il a commencé à rouler dessus, il est retombé aussitôt.
Ouais.
Ça a été la série noire. Hein, la série noire. Donc, oui, là, c'est...
Une année noire, on va dire, pour lui.
Ouais.
Alors, l'affaire Honda, là, il voulait rompre son contrôle avec Aprilia. Et on n'a pas trop bien compris, parce qu'il faut, il y a une clause de non-concurrence ou je sais pas quoi là.
Il y avait une clause
de performance.
Oui, c'est ça. Dans le contrat, c'était marqué qu'il pouvait éventuellement, si il s'avérait que la moto n'était pas compétitive, dénoncer son contrat. Donc il a joué là-dessus, mais au moment où Bezeki commençait à aligner les podiums,
la moto des pauvres.
Donc ça passait plus. Hein, et il a essayé un truc et ça marchait pas. Alors c'est pas très sain quand t'es blessé d'essayer de dénoncer ton contrat. Déjà ton employeur, il se retrouve le bec dans l'eau et en plus tu lui rentres dedans. J'ai pas compris.
Surtout en plus, Aprilia n'a jamais dénigré. Hein, quand tu regardes bien, il essayait de le supporter.
Oui, c'est ça
le problème.
Oui, Aprilia, c'est pas KTM, hein, ils sont plus humains. Et KTM, on sait qu'ils ont fait des coups de hache leurs pilotes, mais Aprilia, c'est pas le cas.
Bernard,
moi, ça nous montre une fois de plus qu'un pilote, comment c'est difficile à gérer. Il faut tout réunir. Et dans la tête, la machine, l'environnement. Et quand j'ai vu l'an dernier que lui, champion du monde sur une Ducati, il n'avait plus de Ducati, je me suis dit, là, il va être dans la merde. Je l'ai dit. C'est... Quand tu quittes la meilleure moto, parce que c'est le fait, depuis des années, hein, depuis Dovizioso qui gagnait, qui battait Marquez, il ne le faisait pas avec un âne, hein, il avait la meilleure moto déjà. Donc quand tu quittes la meilleure moto champion du monde, ou l'équipe, parce que c'est très resserré, on voit bien que la preuve, la Aprilia qui gagne, ça veut dire qu'elle n'est pas loin. Mais le pas loin est tout le temps en haut.
Oui,
c'est pas pareil. C'est difficile. Et la force de Ducati, comme des grandes usines, c'était toujours mécaniquement. Donc quand tu perds ce soutien-là, et en plus, avec le côté affectif de ne pas avoir comme une reconnaissance,
toi,
d'un seul coup, tu es comme rejeté. Tout ça additionné,
ça l'a marqué.
Ça fait mal.
Oui, il était champion du monde et il se retrouve dans une équipe, parce qu'il était quand même dans une équipe satellite, qui avait la bonne moto d'usine.
Oui, mais la moto qu'il fallait, parce qu'il était chez Pramac.
Mais Pramac changeait de moto. Donc, il pouvait, en restant chez Pramac, il se retrouvait sur une YAM. Et il espérait, comme il était champion du monde, avoir une place dans l'équipe rouge de chez Ducati. Mais Ducati, ils étaient déjà overbookés. Donc avec
mais quand tu es champion du monde, il y avait d'autres Ducati, peut-être, je sais pas. Maintenant,
oui, c'est sûr.
Ça pouvait se négocier. Je pense que s'il allait voir peut-être Grésini ou VR, ça aurait été négociable. C'est quand tu es champion du monde, si tu ne sais pas négocier à ce moment-là, quand est-ce que tu arrives à le faire?
Moi, j'ai l'impression qu'il a le sang chaud. Hein. Il prend une décision comme ça. Quand Ducati a annoncé qu'il prenait Marquez, il s'est dit bon, si c'est ça.
Si c'est le sang chaud, ça veut dire qu'il est tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour le conseiller pour lui dire attends.
Non, c'est ça.
Ça n'existe pas. Je veux dire, tu sais, les grands hommes, dès que tu es dans les sunlight comme ça, que tu sois homme politique, artiste et tout, si tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui te murmure à l'oreille, hein, qui te dit non, ça, tu ne vas pas, ça et tout, tu es paumé, surtout quand tu es jeune, et surtout quand c'est tes affects qui prennent le dessus. C'est-à-dire, tu es mort.
À ton époque, tu avais quelqu'un qui te conseillait?
Zéro. C'est pour ça que je peux en parler longuement, parce que j'ai longuement réfléchi depuis le temps.
Tu as eu des aventures aussi comme ça, tu as eu des choix à faire.
La seule certitude que j'ai eue en sortant de la course, je me suis dit, on ne fait rien seul. Enfin, on n'aboutit rien seul. Et j'étais trop seul. Mmh. Et je dis ça pas pour pleurer. Non, c'était mon statut. Parce que même ceux qui étaient dans des officiels comme Ponce, Saron et tout, ils étaient aussi beaucoup seuls. Quoi, je veux dire. Mmh. Ceux qui étaient moins seuls, comme par hasard, c'était les Baréchines avec le père, la mère derrière. Moi, je les ai vus barrer.
Oui, c'était la famille à l'époque, c'est ça.
La famille et les gens compétents. Attention, pas des gens qui poussent au crime et tout, ou qui réalisent leurs rêves à travers leurs pilotes. Hein, tu vois. Des gens qui connaissaient, qui étaient simples, humbles, et Barry, ils pouvaient se reposer complètement sur eux. Quoi. Je veux dire, d'autres, ça a été. Chacun a trouvé un mentor ou quelqu'un, ou Haywood. Son père était là.
Oui.
Donc,
Alors, on peut faire une comparaison, une similitude avec Marquez, hein, son père. Apparemment, son père est toujours sur les.
Son père est là.
Hein, sur les circuits.
Alzamora qui l'a repéré. Oui, donc, je pense que Marquez, il était bien guidé. D'abord, je ferai remarquer, les déclarations de Marquez, elles sont mesurées, il y en a très peu. Mmh. Il n'a jamais balancé sur Honda. Hein.
Non.
Et Dieu sait.
Il reste en bon terme.
Ils sont en bon terme alors qu'il a souffert de ça. Mmh. Et quand tu vois certains pilotes dont je n'aimerais pas les. Non, parce que. Qui signent des contrats, qui prennent des chèques.
Mais si, quand même.
Bah, si, Fabio Quartararo, je suis désolé.
Oh, notre. Bah, justement, on allait en parler juste après le Quartararo.
J'aurais pas imaginé.
Pourquoi ?
À mon époque, les gens signés chez Yamaha ou Honda prendre le contrat.
Oui.
Et balancer autant de choses négatives sur l'écurie, sur les mécanos, sur la moto. C'était pas imaginable. Le type, il était remis au piquet d'entrée de jeu. Donc là, ça veut dire. Mais il se tire une balle dans le pied parce qu'il ne résoudra rien. Quand on dit que c'est la faute des autres, on est mal barré. Hein.
Ouais. Bon, Miguel, qu'est-ce que tu en penses? Parce que. Voilà, je vois, tu t'écoutes des.
Je n'en pense pas moins.
la conversation.
Non, mais.
Les dires de Bernard.
Oui, mais je.
Et toi qui avais le bouquin, je rappelle, hein, 480 pages consacrées aux 2037 pilotes qui ont marqué des points au championnat du monde de 49. Donc c'est le début du championnat du monde de vitesse.
Tout à fait.
À 2024.
Ouais, 75 ans.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à l'heure, on parlait, tu disais que maintenant, la richesse, avant c'était la richesse, c'était la passion. Dans les années du temps de Bernard.
Oui, c'est ça. Hein,
dans les années 80-90, la passion.
La passion était.
La richesse était là. Maintenant, la richesse, c'est dans le coffre-fort.
Ben maintenant, c'est plus le portefeuille et les affaires qui font la différence.
Voilà.
Mais bon, ça n'empêche que tous ces pilotes, qui soient de 49 à 2024, donc 75 ans, la première chose, c'est le respect. Tous ces gens ont risqué leur vie.
Oui, alors il faut admettre que la moto, c'est quand même un sport dangereux. Hein.
Ben. Oui, ils ont tous n'en sont pas sortis indemnes. Donc voilà, même le pilote qui a marqué un point, parce que les conditions pour être dans le bouquin, ça va marquer au moins un point en championnat du monde. Ouais. Donc le gars, le japonais qui a marqué un point à son Grand Prix national parce qu'il a eu une wild card, bon ben lui, à part lui et sa famille, personne ne le connaît.
Ouais, moi je veux dire, mais si je marquais un point, on serait heureux. Hein.
Ah ben voilà, tu serais dans le bouquin.
Velou.
tu les marques avec le permis.
Ouais, voilà. Vous avez le permis à point. Donc je vais faire un bouquin sur le permis à point.
Vous, point,
vous serez tous
dans le meilleur du monde.
Et donc ce bouquin a trois parties en fait. Oui. Donc il y a tous les fiches. Les fiches pilotes.
On va revenir après.
Ah, ok. Okay.
Non, parce que je voulais avoir un peu ton avis, parce que je vois que depuis une demi-heure, tu écoutes Bernard.
J'écoute religieusement ce que Bernard dit.
Oui, c'est ça.
Bah, pas
un vrai moine. Voilà, très bien. Allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
magazine de la moto. C'est sur campus. Ah, ça, c'est du deux temps, ça. Ouais. Ça, ouais. C'est un peu ton époque, ça.
Ça, c'est t'es, du deux temps. T'as une
Pony TZ aussi.
Et la musique, c'est bien aussi.
La musique, elle est bien. Ah, bah, tu sais, on est sur campus.
Il n'y a pas que la frite du Nord. Elle est...
Comment ça, il n'y a pas que la frite? Non, mais. Oh, voilà. Alors, spécial championnat du monde de vitesse moto, donc aujourd'hui sur les ondes de campus. On va parler de. Donc, bah, on a parlé de Quattararo, du pilote, mais le nouveau V4 Yama, qu'est-ce que vous en pensez, là?
Bah, il faudrait qu'il s'améliore un peu quand même.
Pour l'instant, ça va pas. Hein.
Ouais, mais sortir un nouveau moteur comme ça, il faut le. Ça prend du temps aussi, ça, pour le.
C'est très
mettre
curieux.
Au point,
c'est très curieux parce qu'on sait qu'en 2017, curieux, oui. On passe à 850 cm3
en plus. Ouais. Oui.
Donc faire un moteur pour un an, c'est bizarre.
Bah, je pense que c'est prévu déjà.
Voilà,
pour
ils ont prévu
dégonfler.
Peut-être.
Ouais. Ouais. Et ils vont l'extrapoler en
plus.
Ensuite,
bah, ouais. Ouais.
Donc d'abord, ça veut dire que le V4, c'est la religion, parce que tout le monde est en V4. On n'a plus le droit d'avoir une autre architecture moteur que le V4. Donc ça, déjà, c'est un petit peu. Il y avait des V4 qui marchaient pas bien. La Honda, elle a un V4, elle marchait pas bien. Donc c'est pas la solution forcément. Ce moteur. Donc moi je comprends pas trop. Apparemment pour l'instant les essais ils disent que c'est plutôt pire que le 4 cylindres, mais qu'ils y vont. Donc Quartararo est pas fini de râler.
Jean-Pierre, t'en penses quoi?
Moi je pense que le V4 marche bien avec le Michelin et que ça sera peut-être pas si évident que ça avec
Le Pirelli, oui.
Ça va changer beaucoup, oui. Les donnes vont vraiment changer avec les pneus différents.
Bon, ça, c'est pas en 2026, hein, c'est en 2027. Hein.
Ouais, je sais.
Voilà, et bon, ça, on verra bien. Et Pramac, hein, attention, aussi, deux Yamaha de plus hein, l'année prochaine chez Pramac.
Elles étaient déjà chez.
Ah bon, ouais, déjà ah bon ouais, c'est moi qui fais une erreur. Là.
Ouais. Non, il y a, chez Pramac, il y avait Miller et Oliveira.
Miller et Oliveira, oui. Ouais. Ah oui, alors qu'est-ce que vous pensez de. la star du World SBK, là, Toprak Razgalioglu.
Toprak, quoi, qui va venir en MotoGP.
Alors, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
On va voir ce qu'il va faire, lui, sur une Yamaha.
Là, il fait ses débuts, là, sur une Yamaha.
Ouais.
Donc, on va voir ce qu'il va faire.
Ça sort du cadre, franchement, mais je sais pas. J'avoue que je suis très.
Ça va être intéressant.
Très
de
intéressant.
C'est marrant d'aller chercher un pilote dans.
Oui, c'est rare.
C'est quoi de venir en MotoGP, c'est plutôt l'inverse. Hein.
Ouais. Il est tellement doué. Généralement. Il est tellement doué, tout le monde y croit. Enfin, il y a eu beaucoup d'expériences de pilotes d'USBK qui sont venus en Grand Prix et bon, ça n'a pas été forcément des grandes réussites. Quoi.
Ouais, surtout qu'il y a beaucoup changé de moto différente hein, en USBK.
Je vous rappellerai qu'il est turc.
Oui. Oui. Et alors
que peut-être un point de vue commercial, oui, peut-être tu as envie de toucher la Turquie.
Ah, tu voilà, penses ça?
Tout à fait, je suis d'accord.
Tu penses, Bernard, que c'est plutôt commercial qu'autre chose?
Tout est bien commercial là-dedans.
Pourtant, c'est vrai qu'il a dominé le championnat.
En dehors de l'humain, regarde le plateau, parce qu'on a vu des pilotes belges, allemands et tout ça, ou japonais, qui n'étaient pas au niveau du tout.
Oui,
ils étaient seulement. Pourquoi ils étaient là, à ton avis? Pourquoi ils étaient là?
Je ne sais pas.
Bah oui, pour si,
Chantra, c'est pour le marché.
Il
fallait un Asiatique dans MotoGP. Ouais.
Quand tu diffuses, mais c'est comme le. La Dorna, c'est devenu un producteur de cinéma.
Ah oui.
Pareil.
D'accord.
Donc quand tu voulais vendre dans plusieurs pays, je veux dire, quand les Américains produisent des films ou des Italiens, tu avais un Anglais, un Américain, une Française ou une Italienne, un Français, tout ça jouait en anglais ou en italien ou jouait pas du tout parce que
c'est le bordel.
C'était doublé, mais c'est parce que tu voulais toucher les pays de l'Europe. Donc commercialement, ça se tient et donc du coup. C'est quelque chose qui doit jouer, d'avoir un super pilote, parce que ses résultats l'attestent, qu'il ne fait pas semblant.
Non.
Et qu'en plus, il est turc. Moi, je dis bonne affaire. Ouais. Moi, je suis producteur, je dis ouais, je le veux lui. Voilà.
C'est pour ça, l'Asie, c'est la porte ouverte actuellement, et je pense que c'est là-dessus qu'ils vont jouer.
Voilà. Alors, et ensuite. Quand même, l'attaque, on voit ce qu'il fait. Un super
freineur. C'est un super freineur. Hein.
Oui. Non, mais ici, avec ça, mais c'est un gagneur. Ah, ouais. C'est un gagneur. Oui. Point. Donc, je suis très curieux, et je ne vais pas me prononcer parce que je suis curieux de voir un pilote qui a vraiment faim. Qui a vraiment faim. Parce qu'il y a un moment là, même quand tu es à ce niveau-là, MotoGP, que tu ne gagnes pas,
y a une routine, enfin, comme on dit, la fameuse zone de confort.
Là, tu rentres dans la zone de confort, oui.
Tu veux, t'es content, t'as un beau métier, oui. Tu gagnes de l'argent, oui. Tu voyages et tout. Mais est-ce que t'es prêt à te remettre en cause? Est-ce que t'es prêt à aller chercher ce que t'aurais cherché quand tu débutais? C'est pas sûr. Toi, regarde, je pensais à Stoner qui était au top. Il savait ce qu'il fallait pour être un nouveau champion et il était plus prêt à le faire. Il a dit, je préfère arrêter. Parce que, faire 2, 3, il sait, il aurait pu le faire.
C'est pour lui, c'était pas ça.
Mais ça l'intéressait pas. Et donc, lui, il arrive, il a faim.
Oui, enfin, c'est vrai.
Je me mets dans sa peau. D'un seul coup, avec tout ce qu'on peut dire, lui, le type, il dit, attendez.
Il a faim, il a beaucoup de pression aussi.
Raconte.
Oui.
Mais non, mais la pression, t'en as
besoin.
Enfin, c'est quelque chose que tu veux. Si tu veux pas de pression, tu fais pas de moto. Tu joues à la bolotte chez toi avec tes copains.
Ou boule.
Ou boule, tout seul encore avec des gens
pétanque,
que tu vas battre.
À la pétanque, je veux dire.
Avec des vieux de la résidence, toi, que tu vas peut-être arriver à battre. Mais non, la pression, c'est un plus. C'est comme. Si t'as pas l'agressivité, tu deviens pas un pilote. Toi. L'agressivité, c'est pas que négatif. Ça fait aussi que d'un seul coup, tu soulèves une valise, tu sauves ta vie, ou tu te débarques en Grand Prix, et puis tu te dis je vais les battre, je les respecte, mais je vais les battre. Donc, si t'as pas ça en toi, tu peux pas gagner.
Et là, il quitte quand même quelque chose où il était dans le premier, ou presque. Et tu vas dans un endroit, tu sais
nouveauté.
Pas ce que tu vas
nouveauté.
Faire. Voilà, c'est nouveauté, voilà. Tout à fait.
Avec une moto qui marche pas terrible.
Oui, normalement.
Oui. Alors on verra peut-être. Qu'on sera surpris. Oui.
Sauf que lui, il connaît les Pirelli quand même. Hein.
On sera peut-être surpris que
la première année,
ça va mieux marcher.
La Yamaha.
Mais 2026, un petit rodage, un petit aperçu, une mise en chauffe.
Ouais.
Bernard,
sa première année.
Oui.
Pour lui?
Oui, pour toi.
Je pense pas qu'il ait le mental à attendre.
Non, et 2027 lui, où il y aura le 850 et les Pirelli là, ça va être autre chose.
Oui, mais je pense lui il est plutôt conseillé. Je pense qu'il est pas mal entouré et qu'il fait pas n'importe quoi. Même s'il est audacieux, à voir. Je le connais pas assez, intimement sur les circuits et tout. Donc
Moi je pensais que tu mangeais avec lui tous les jours.
Mais pour revenir au Superbike, je rappelle quand même, c'était Troy Bellis.
Oui, Troy Bellis. Oui,
quand il est arrivé, bonjour, la leçon qu'il leur a donnée.
Exactement. Dernier Grand Prix, il gagne.
Mais un type qui va vivre dans le Superbike, si à un moment il arrive dans une écurie qui fonctionne, avec une moto qui fonctionne et qu'on lui laisse le temps, il n'y a pas de raison qu'il soit derrière. Quoi. Après, qu'il ne batte pas Marquez, de toute façon, il n'y a personne qui le bat. De toute façon. Ça c'est réglé.
Ce qu'on aimerait bien en tant que spectateur, que quelqu'un vienne un petit peu le chatouiller quand même.
Tout le monde va attendre.
Il n'y a rien de plus embêtant d'aller voir un film et déjà connaître la fin du film. Quand ça commence, et une heure après, tu sais la fin. Alors ça sert à rien de regarder.
Avec l'âge, ça va fatalement arriver.
Ça va fatalement.
Si c'est pas les blessures qui l'écartent, ça sera.
Il a 32 ans alors, effectivement.
Alors en même temps, on s'aperçoit que c'est toujours le résultat qui. Moi, j'ai une vision plus poétique de la course. Alors, il n'y a pas que le résultat, le gagnant. Il y a aussi le contexte, la façon, les acteurs et les échanges et les duels. Parce que, il y a d'autres choses qui font que. Mais c'est sûr qu'on focalise comme le plus riche. C'est toujours le plus. Marquez, c'est fabuleux ce qu'il a fait, d'où il venait. Maintenant. L'an prochain, tout le monde va attendre. S'il gagne à nouveau, c'est son 10e titre. Donc, ça y est, il prend la place derrière Ago. Donc, tout le monde va parler que de ça. Que Marquez, tant qu'il tourne la poignée, qu'il est devant et qu'il se bat, c'est son moteur. C'est le désir qu'il a. Le jour où il n'a plus ce désir-là, argent ou pas argent, collection de titres, il n'y arrivera pas.
Il a combien de titres, Marquez? 9.
S'il en a un prochain.
Là.
S'il fait un 10e.
L'année prochaine, oui.
Il bat Rossi.
C'est ça que je pensais. Je pensais à ça, Rossi. C'est Rossi qui va faire la gueule.
Mais donc, Rossi fait déjà la gueule sur Marquez parce que Rossi, il n'est plus pilote. Il voit son ennemi juré continuer à s'éclater et à réussir. Là où il n'avait pas réussi sur la Ducati.
Il va sûrement faire des tensions dans les paddocks.
Il a tout pour mettre dans la poupée les.
C'est les packs dans la poupée, oui. Ah oui, je viens de croire, oui. Et puis alors, une question pour Nico.
pour finir avec le, enfin, la moto GP, c'est la moto E, c'est fini.
La moto, c'est fini.
La moto, c'est fini. La moto électrique.
Non, ouais. Moi, par contre, en moto GP, j'ai quand même une inquiétude pour KTM. Parce que ils étaient sur la pente ascendante et là, ils ont beaucoup de mal. Ils sont dans la tourmente avec tous leurs soucis financiers. Hein. C'est un Indien Bajaj qui est majoritaire maintenant. Pour eux, le moto GP, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Et c'est loin d'être la priorité. Alors, ils tentent de rassurer en disant que le proto 850 tourne au banc, mais je ne suis pas sûr que ça tienne le coup sur le long terme.
Juste une petite question, c'est justement l'Asie. Ils sont très férus, justement, de moto Grand Prix. Ils aiment bien regarder encore. Ils en ont de plus en plus.
Mais c'est pas la passion de la société.
Ça risque de le devenir dans le futur.
Alors on verra bien. Après, Acosta, moi, c'était aussi le rookie, le super rookie de l'an dernier.
Oui.
Et puis cette année, ben, il court toujours après sa victoire. Hein, il n'a toujours pas eu de victoire. Il est obsédé par ça. Il a des problèmes de pneus, d'usure de pneus. Il est bagarreur en début de GP, mais en fin de GP, ça va beaucoup moins bien. Et il finit quand même pas mal de fois sur le podium,
oui.
Mais sans concrétiser sa victoire.
Il tombe beaucoup. Beaucoup trop.
Et puis il y en avait un qui était bon aussi chez KTM, c'était Brandt Binder,
oui.
Et qui est là très effacé cette année. Hein. À chaque fois, pour moi, son talent d'agile, c'est les qualifications.
Oui.
Dans un MotoGP où le pneu tendre arrière, elle conditionne complètement l'accès à la Q2, chaque dixième, ça coûte.
Il y a peut-être aussi, comme disait Bernard, le mental.
Ah, c'est sûr. Que d'avoir Acosta chez
lui, Acosta dans la même écurie, ça l'a certainement perturbé. On l'a vu l'an dernier déjà.
Hein. Ouais. Mais oui, Brad Binder, il n'arrive plus à passer le cap de la. Il s'appelle des Q1 sans arrêt. Donc,
Il n'est pas d'aujourd'hui et je pense qu'il a peut-être ses heures de gloire sont derrière.
Ouais, c'est ça.
Bien, ouais. Je pense
c'est un sacré bagarreur. Hein.
Mais à un moment.
Il n'y arrive plus. Ouais. Donc c'est vrai que.
Moi, je voulais parler d'Aldeguer quand même, qui n'est pas chez KTM. Mais Aldeguer, il a fait de beaux résultats quand même.
Très bon. Le rookie de l'année, hein, il a 3 podiums et une victoire en Indonésie. C'est. Bravo.
Lui, assez étonnant. Hein.
Surtout qu'il n'était pas non plus bien au classement au Moto 2. Il n'était pas dans les premiers. Quoi.
Surtout critiqué aussi. Hein. À cause des accrochages qu'il y a eu.
En Moto 2, il était très bon, mais il était.
7 ou 8e.
Très variable. C'est-à-dire qu'il faisait des mauvais Grands Prix. Mais il en
Quartararo en moto 2, il n'écrasait pas.
Non.
Et à un moment, il a trouvé sa dimension avec la moto GP.
Mais ça, il n'a jamais écrasé ni en moto 3, ni en moto 2.
En moto 2.
Mais ça, c'est des choses que j'ai vues de mon époque aussi, où des types qui étaient un peu moyens en petite cylindrée, en moins 2,5, 3,5, en montant sur une 500, 7,5,
ils se révélaient.
Ils explosaient.
Bon, on passe à un morceau de musique.
Oui.
À force de parler, on aimerait bien un peu. Se reposer. Hein. Voilà, allez, un petit morceau de musique et on se retrouve juste après.
Alors ça, Bernard, je suis sûr que tu ne peux pas reconnaître cette moto, enfin ce bruit de moto. C'est dans un tunnel, tu vois, c'est non ouais, c'est ça qui te brouille, ça brouille. 4 cylindres.
Oui, il y a des tours.
Il y a des tours.
Multicylindres, on va
dire. Voilà, messieurs, un petit peu de lecture, hein. Ça va nous changer un peu là, voilà, avec Miguel. De Kayser.
Oui,
c'est belge ça.
Tout à fait.
Pourquoi il rit, regarde. Le ch'ti qui rit du belge.
Bah non, ouais. Oh, et le parisien. Ouais, et nous, les belges, on les respecte. Hein,
ça, ah bah oui, on est tout frais. Hein.
voilà, hein.
On est pareil.
On est pareil. Bon, dis-nous tout sur ce livre-là, The Elite Grand Prix Riders.
Bon, je veux bien.
480 pages, 2037 pilotes hein, qui ont marqué des points en championnat du monde depuis 1949 à 2024. C'est un boulot de titan, ça.
Oui, tout à fait. Plus de 2 ans de travail. Plus de deux ans de travail.
Non, je montre le bouquin à la caméra. Tu sais.
Oui, bien sûr. Oui, on va très bien le voir à la radio.
Enfin, c'était pas toi. Je sais pas ce que tu le connais.
Tu pourrais le décrire quand il va passer à la radio. Tu peux dire que c'est une belle couverture orange.
Oui, alors c'est une très belle couverture orange. Bah, ah oui, à la radio, oui, effectivement.
Ah ouais.
Oui, alors quand même. Tu peux dire aussi. Hein, ouais. Alors, c'est, oui, très, très belle couverture. Ah, mais c'est un travail de qualité, un beau papier. Oui, écoute.
C'était le minimum. Donc,
D'abord, non, ouais. Quelle idée comment ça,
quelle idée
ça t'a pris de commencer à avoir il y a deux bah, ans, si tu deux, veux, trois ans de faire cet ouvrage.
Ouais, on a commencé par faire un livre sur Agostini il y a 4-5 ans, en période Covid si tu veux, on est arrivé à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on ne pouvait plus faire d'événements sur les circuits, on était tous confinés, donc on s'est dit on va faire un bouquin avec Aldo et Patti, on a dit tiens on va faire un bouquin sur Ago. On a été voir Ago qui nous a reçus chez lui, on lui a posé les 80 questions pour ses 80 ans et on a fait un bouquin sur Ago. Bon, qui a bien marché, puis on a eu terminé ce bouquin, on s'est dit bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire, on a réfléchi un peu et puis on s'est dit tiens ça serait quand même sympa les pilotes qui ont marqué des points en championnat et tout, alors on est parti dans l'idée directement mais en ne mesurant pas vraiment l'ampleur
les étendues.
Généralement c'est après quelques chopes on dit oh
ouais c'est ça au début
après, et c'est après qu'on se dit mais mince après... je pense qu'on est on s'est lancé dans un truc
ouais, c'est ça quoi, après l'apéro
après l'apéro
75 ans c'est long
c'est ah ouais c'est ce qu'on a bien fait de se lancer là-dedans
oui
et puis on a commencé à collecter des informations sur les pilotes et tout et donc l'idée c'était de commencer au premier championnat du monde en 49 et terminer avec les 75 ans en 2024. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de pilotes qui ont marqué les points. On est arrivé à 2037 pilotes. Il faut savoir que de 49 à 2024, il y a près de 10 000 pilotes qui ont participé au Grand Prix. Et là-dessus, 2037 ont marqué au minimum un point. Et on a retrouvé les informations, parfois un peu sur Internet, dans des bouquins, parfois avec la complicité des familles des pilotes qui nous ont donné des informations sur le pilote en question. On a compilé tout ça, on a vérifié les informations parce que beaucoup de choses étaient fausses. Même parfois des pilotes qui donnent des informations qu'on a dû un peu recouper et contrôler. Et puis après, on s'est mis en chasse des photos. Ça n'a pas été une mince affaire. La FIM nous a généreusement ouvert ses portes pour aller récupérer la collection de Maurice Bulla, qui était un grand photographe que Bernard a sûrement connu. On a scanné des centaines et des centaines de photos à la FIM. Wow. On a classé, répertorié et tout. Et on a la chance de contacter environ une bonne trentaine de photographes internationaux qui nous ont prêté leurs plus beaux clichés. Voilà. Il a fallu trier parce que sur les plus de 3000 photos, on a peut-être eu 6 ou 7000 photos. Il fallait un peu éliminer quand même, sinon on allait faire un bouquin.
Oui, mais déjà, là, il fait 2 kilos.
Bah ouais, c'est ça quoi. Tu vas me dire, on n'est plus à 1 kilo près. Mais tout de même.
Quand même.
On devait se limiter un peu au nombre de
pages. Et alors, il y a combien de photos dans ce bouquin alors?
Plus de 3008, je crois. Chaque photo a dû être scannée, retouchée, parce que bon, à l'époque du temps de Maurice Bulla, faire des photos ça coûtait cher. Fallait d'abord du bon matériel. Maintenant, avec le GSM, on fait n'importe quoi, la photo du chat, de la bouffe, des machins. Donc à l'époque, il fallait acheter de la pellicule, il fallait développer. Il fallait faire des planches contact et sélectionner ses photos. Alors, il prenait évidemment soit les plus belles ou les moins mauvaises, ça dépendait. Donc, parfois, il manquait un morceau de roue, parfois un mauvais cadrage et tout. Donc, on a récupéré vraiment des photos très, très brutes qu'on a retouchées. On a surtout embelli les photos. On n'a pas triché sur les visuels, on a embelli. Donc, l'intelligence artificielle nous a aidés parfois à reconstituer des détails de cadrage ou des petites choses qui manquaient sur la photo. Mais on n'a pas changé le visuel principal.
Tu nous as dit que tu avais appelé chaque pilote, enfin ceux qui sont encore vivants, hein, parce que forcément depuis 1949.
Ouais. Ouais, enfin, il y a des infos qu'on a.
Non, mais
des infos
qu'on a. Pour des commentaires, des commentaires. Voilà. Non,
donc, le bouquin a trois parties. Donc, la première partie, ce sont toutes les fiches pilotes, où il y a généralement une photo de portrait et une photo d'action, à condition de les trouver. On n'a pas trouvé tout non plus. Hein.
Alors, c'est chronologique ou c'est.
C'est par ordre alphabétique.
Alphabétique.
Ouais, ouais. Et il y a une petite fiche descriptive par pilote, avec sa date de naissance, de décès parfois, malheureusement. S'il a fait les podiums, le nombre de victoires. Ses grands titres, s'il y a eu des titres, ou son meilleur classement au championnat du monde. On n'a pas mis de points parce que les classements par points n'ont qu'une valeur
ouais, bien sûr.
D'époque à l'autre, donc ça n'a pas d'intérêt.
Le palmarès en fait. Hein
voilà, ouais. C'est ça. Mmh. Et donc là, il y a les 2037 fiches des pilotes. Après ça, on a pris des témoignages. Au début, on se dit, tiens, on va se limiter, c'est toujours la même chose, on va se limiter à une trentaine de pilotes et tout. Et puis finalement, on a vu qu'on avait beaucoup, beaucoup de retours. On est arrivé à plus de 100 pilotes qui ont témoigné, un petit. Une anecdote ou un truc, oui. Bernard nous a fait un très beau texte. C'était l'un des plus longs qu'on a dû raccourcir.
Ah bah ça m'étonne pas.
Il y a deux phénomènes comme ça. C'est Bernard et Marco Lucchinelli.
Oui. Ah, pas que ce soit écrit ou parlé.
Ah ouais, c'est ça, on sait pas. Lucchinelli, c'est la même chose. Tu lui demandes de faire 10 lignes, il fait 10 pages. Hein. Voilà. Donc on a dû raccourcir.
Par
Bernard aussi,
il a dû raccourcir le texte. Par contre, tu dis qu'il y a d'autres, c'est trois mots. Hein.
Ouais, enfin trois, disons, allez, quatre. Ouais, ouais, bon, ils allaient tous très vite, mais ils sont... Ils n'ont pas forcément envie de s'étendre sur le truc. Enfin, donc, ouais, on a eu des chouettes trucs. Des commentaires de l'époque avec des trucs sympas, avec des anecdotes avec le Philippe Coulon qui, après avoir gagné, ou fait le deuxième, je crois c'est au Castellet, oui. Avec sa prime d'arrivée, il était dans le quartier chaud.
Voilà,
il dit alors, ouais, avec ça, je vais acheter la rue. Tu vois,
tu nous as dit que finalement, ces pilotes de ces années-là, ils avaient des anecdotes à raconter.
Que
maintenant ils en ont plus.
Ah mais tu sais, j'ai dû choisir. Bon, par exemple,
maintenant les pilotes des années 2025, ils ont plus d'anecdotes parce que.
Ouais, j'ai eu les...
Disons que
c'est des salariés quoi.
Différent.
C'est des salariés de la marque.
D'un hôtel, oui. D'un avion à hôtel.
Ben, c'est ça. Ça devient des employés
oui.
des marques. À l'époque,
oui, chaque... des marques, oui.
Bernard dans son interview, il raconte qu'il a besoin de la prime d'arrivée pour aller au Grand Prix suivant.
Oui, vrai. Bernard, oui.
Mais non, voilà. Mais non, c'est
tout le genre. Prime d'arrivée, prime de départ.
La prime d'arrivée, la prime de départ.
Non, d'arrivée. Les primes de départ en Grand Prix. Alors donc, c'est
ce qu'on veut dire, c'est qu'il fallait finir.
Ah bah il fallait être bien.
Ah bien sûr.
Sinon, il n'y avait pas de suite.
Donc ça, c'est la partie intéressante parce qu'il y a aussi des photos et des commentaires des différents pilotes. Après ça, il y a une partie statistique, il y a une bonne, je ne sais plus, 30-40 pages de statistiques. On a tout épluché, les classements, toutes les catégories, enfin, c'était un gros boulot aussi. Et après ça, on a une partie témoignages des photographes qui nous ont fait l'honneur d'être dans le bouquin et de prêter leurs photos. Donc on leur fait un petit portrait avec leur... aussi une petite anecdote sympa qu'ils ont.
Ils ont abandonné leurs droits, mais en même temps, tu leur fais une petite tribune pour les...
Oui, ça, ouais. Et puis ils reçoivent évidemment des bouquins, des choses comme ça. Donc c'était le deal de départ. Parce que, évidemment, 3800 photos, on ne savait pas payer les droits, autant de droits.
C'est énorme,
j'imagine. Ouais. Ouais. Donc on a eu l'accès à la banque de données de la FIM, plus les photographes. Parfois avec deux ou trois photos, parfois des dizaines de photos. Donc on a du tout, tout passé au
tri,
ouais, et trié. Aussi parfois corrigé, parce que parfois le circuit qu'il mentionnait, c'était pas vraiment ce circuit-là. Donc on a essayé d'être le plus juste et le plus
précis possible.
Le plus précis possible. Et, ça, c'est... et puis ça, c'est le bouquin principal, mais dans la version prestige, il y a la même chose sur les sides.
C'est compliqué aussi, ça. Encore plus compliqué, je pense.
Bah, c'est compliqué parce que les championnats ont tellement changé de nom, d'appellation. À un moment, on ne s'y retrouve plus. Donc, on a essayé quand même de classer les différentes périodes pour arriver à donner quelque chose d'un peu structuré et que le lecteur s'y retrouve un peu. Et il y a la période 750
aussi
qui a pas duré très très longtemps, mais qui a quand même marqué son époque. Et donc voilà, et là aussi il y a des interviews de pilotes et tout. Et là aussi des anecdotes, quand j'ai eu Michel Van Est qui j'ai demandé quelque chose sur sa partie des sidecars, il dit mais combien tu veux d'anecdotes parce que j'en ai des dizaines. J'ai dit une, ça suffira quoi. Il m'a envoyé 4-5 trucs et tout. Donc, là aussi il a fallu sélectionner ce qu'il disait. Bon, ouais, c'est intéressant.
En sidecar, ouais, en plus, c'était une ambiance particulière. Déjà, c'est un tandem.
Ouais. Donc, puis les sides ont toujours été un peu.
Et puis les pilotes, il y a une espèce de communauté, hein, sidcariste. Hein.
C'était un monde à part. Hein.
C'était un monde à part. Ils étaient un peu à part des.
Ouais, ouais.
Un peu rejetés aussi.
Un peu rejetés aussi.
Ils arrivaient en fin de.
C'était parents pauvres. Tous les spectateurs repartaient quand ils commençaient à rouler.
C'est dommage parce que c'était un beau spectacle.
C'était un beau spectacle.
Il y avait un truc presque bâtard. Parce que à une époque, c'était une moto avec un side, puis tout doucement, c'est devenu, ça ressemblait
à des voitures.
À un moment, c'était plus une moto et c'était pas vraiment une voiture. Voilà. On était un peu à deux.
Il y a eu même Rolf Bilan qui a fait un. Ça a été critiqué, il a été interdit à cause de ça, justement.
On explique dans le bouquin.
Rudy avec Dan Rowe.
Oui. Ils ont fait un beau petit témoignage.
Miguel, un scoop, hein, nous, avec Jean-Pierre, on peut dire qu'on a vu débuter à la Michel.
À la Michel.
Sponsorisé par les Nougats de Montélimar.
C'était inscrit en grand sur son side.
Sur la course d'Avignon, il s'est payé deux fois les bottes de paille, mais il a quand même fini premier.
Il a fini premier.
Nougat.
Une espèce de fracalingue, mais.
Puis le circuit était pas mal aussi.
Ça prêtait vite à.
On va voir un petit peu en fin d'émission, mais il ne nous reste pas beaucoup là. Donc voilà, ça s'appelle The Eight Grand Prix, hein, Riders.
À compte d'auteur, tu l'as fait donc.
Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on on procède un peu différemment des maisons d'édition classiques. On lance les souscriptions, on engrange les souscriptions, et quand on a atteint le quota pour produire le bouquin. Bon,
vous aviez l'argent avant de le produire en fait.
Oh, oui, bien sûr. Ouais. Comme le bouquin Agostini, même chose.
Et
on a quelques partenaires qui jouent le jeu aussi, et qui nous ont accompagnés, comme Michelin à Cracovie.
Et on peut encore se le procurer ?
Oui, bien sûr.
Il y a un site internet ?
Il y a un site internet qui s'appelle 1949gp2023.com.
D'accord. Ça sera un collecteur parce que c'est une série
limitée. Et on me dit, mais pourquoi t'as mis 2023 et pas 2024 ? Mais en fait, l'URL c'est 2023 parce que ça correspond à la date du début de notre aventure. C'est pour ça qu'on.
D'accord.
Alors, Miguel, tu fais Miguel de Kaiser, c'est simple, tu fais sur internet, tout de suite on te trouve. Tout de suite le.
Si tu tapes 1949 GP
de Kaiser, c'est simple, hein. Dans l'or, nous on sait. Bernard, hein. vous à Paris, vous voulez pas l'écrire de Kaiser, c'est belge.
Il y a des noms plus compliqués chez nous. Hein.
Oui. Voilà, donc c'est.
J'en profite quand même pour remercier, parce que grâce à eux, le projet a bien avancé. C'est Jorge Viegas, le président de la FIM, qui nous a fait un très beau texte. Il y a Loïc de Seine qui a fait la préface qui nous a bien soutenus dans ce projet. Donc, ils sont remerciés dans le bouquin également.
Et Miguel, comme tu es un type super sympa.
Ouf.
Hein, il paraît.
Faut le dire vite. Hein.
Tu offres deux bouquins aux auditeurs.
Pas deux bouquins, deux coffrets.
Deux coffrets, c'est un deux coffret, coffret, oui, coffret.
Avec le coffret luxe.
Avec le plus, le certificat.
Avec le certificat.
Tu m'as dit, ça vaut combien, ça, le tout, le coffret ?
123 euros.
Donc, 123 euros, hein, voilà. Donc, je donne un numéro de téléphone. C'est le 06 11 25 02 57. 06 11 25 02 57. Les deux premiers auditeurs, hein, qui m'appellent. Oui, effectivement. Et ben, auront le droit à avoir ce. Pour Noël, c'est un beau cadeau pour Noël.
Ah, tout à fait, hein,
voilà. On n'est pas loin. Hein. Voilà.
Il faut de la place sous le sapin, parce que c'est quand même un gros.
Oui, il faut de la place. Ouais. Ouais, et puis un gros sapin.
Un grand sapin.
Très bien, voilà. Allez. Oui, Bernard. Ah non, t'as pas le droit de jouer. Voilà, allez, on passe à un morceau de musique. Et on se retrouve juste après.
It's the pride that keeps you free.
Bonjour, le calendrier des motoclubs, c'est parti. Vous êtes président ou motard d'un motoclub ou d'une association et souhaitez publier les dates de vos manifestations dans le calendrier réalisé par Kikinkout et Toupal. C'est très simple, par mail à l'adresse générique calendrier@k1c.fr ou sur le site de Kikinkout et Toupal, k1c.free.fr. Et c'est gratuit.
Voilà, on se le dit, c'est gratuit. Et qu'est-ce qui est gratuit si vous appelez là au téléphone, hein, 06 11 25 02 57, Miguel, hein, deux bouquins, deux coffrets,
deux coffrets
hein, valeur 130 balles.
123
balles. 123 balles. Ouais, bah 30 balles avec le port aussi.
Le... Oui, allez, non,
voilà,
je pas d'excuses.
Voilà, très bien. Allez, la moto 2, Nico, pour terminer cette émission.
Bah oui, la moto 2, donc avec un champion cette année, Diego Moreira. Donc, qui va passer en MotoGP l'année prochaine, qui va rejoindre Zarco chez LCR.
Il n'est pas encore champion.
Non, mais c'est bien parti.
C'est la seule catégorie dans laquelle
il n'y a pas encore le titre en jeu. Oui, c'est bien parti. Il a quand même 10 points d'avance.
10 points, c'est pas beaucoup.
10 points sur deux Grands Prix, ça peut aller vite.
Il peut encore prendre 25 points et voilà, il y a une chute.
Il y a beaucoup de gagnants en Moto2, c'était différent cette année. Hein.
Oui.
Donc on a eu presque une dizaine de gagnants. Il y a Barry Baltus aussi.
Oh là là, Barry Baltus,
il s'est révélé cette année. Hein,
quelle belle saison.
Une belle saison.
Ouais, c'est clair.
Et il court toujours après sa victoire. Mais
En Belgique, ils vont plus se sentir. Hein.
Il a enchaîné.
Il a sorti les drapeaux. Podiums. Et tout.
Ah oui, les drapeaux.
On va changer la date de la fête nationale aussi.
Ah oui.
Oui, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de Belges comme ça, aussi costaud et en moto.
Oui, le dernier vainqueur, c'est Olivier Loy, en 125, et avant Xavier Siméon.
Siméon.
Non, c'est une belle saison.
Ouais, c'est une super
saison. Il a déjà signé pour l'année prochaine dans le même team.
Oui.
D'accord. Oui.
On peut espérer
que ça concrétise.
Là, c'est pareil. Hein. Il y a même pas. Il y a combien? Il y a 6 points de différence entre Dixon.
À 2 points de la victoire plusieurs fois.
Il tourne autour.
Mathématiquement, on peut être encore 5 à gagner le championnat. Mathématiquement.
Il y a Gonzalez aussi.
Gonzalez aussi.
Ah ouais, Gonzalez qui est deuxième. Il y a 9 points de Moreira. Moreira vient de le passer le week-end dernier. Enfin, le dernier Grand Prix. C'est le dernier en prix où il est passé devant quoi.
Bah dans les 4 premiers là il peut y avoir un tas de changements. Il reste donc on rappelle aujourd'hui Portimao et puis la semaine prochaine Valence. Hein.
Tu crois qu'ils ont pris un Brésilien chez LCR parce que là aussi c'est politique et.
T'as quand même vu qu'il y a un Colombien, il n'y avait pas avant. On fait le tour du monde là un petit peu avec les pilotes là maintenant.
Bernard, qu'est-ce que t'en penses?
Parce que c'est vrai qu'il y avait.
Il y avait Johnny Secoto à l'époque.
Ah oui, mais
c'était pas vénézuélien.
Si je te rappelle l'arrivée, la découverte de Johnny Secoto, déjà, ça va en a pour un quart d'heure.
Oui.
Non, mais comment il est arrivé au.
À 19 ans. Il a gagné le championnat.
Non, mais à 19 ans, il arrive, il est inconnu, engagé de dernière heure au Grand Prix de France. Le dimanche soir, il est sur le podium 2,5, 3,5 sur la première marche.
Oui, parce qu'à l'époque, les pilotes pouvaient éventuellement faire 2 ou 3 courses.
Deux catégories. Et donc là, de inconnu, d'un seul coup, il bat tous les meilleurs.
Il n'avait jamais roulé en Grand Prix, il n'avait jamais roulé en Europe.
Moi, je l'avais vu à Daytona quand il avait fait une remontée de folie au 3e. Et je dis, lui, il pédale. Hein. Ouais. Et quand il arrive au Castellet. Bah, il a confirmé que c'était un surdoué.
Ouais, ouais. Même en voiture, après, il a bien marché avant de se fracasser. Enfin,
complètement. Ouais. Et bon, il est parti très tôt en voiture, il n'a pas attendu d'être un peu fatigué de la moto. C'était un surdoué, quoi.
Donc pas de changement pour la Moto 2, ni pour l'année prochaine, ni pour 2027.
Moto 2, il y a quand même des pilotes...
Non mais au niveau particip, si, parce qu'ils ont plusieurs particicles, les Moto 2. Mais le même moteur, en fait, c'est le moteur 3 cylindres Triumph.
Oui, c'est ça.
Et
ça
restera comme ça.
Ça reste comme ça.
Comme ça pour l'instant.
Ouais. Il y en a c'est en Moto 3 que ça risque de changer la motorisation.
Moto 2, il y a toujours quelqu'un qui cherche... comment ça s'appelle, à devenir champion du monde, c'est Canet qui est toujours...
Oui, c'est Canet, il s'est bien fait reculer, là.
Il a dégringolé, là, ces derniers temps. Ouais. Mais bon, on sait jamais, hein.
Alors, après t'as les nouveaux, les rookies, hein, Olgado, Alonso, qui sont quand même bien là, quoi.
Ouais.
Ils ont mis un petit peu de temps à démarrer au départ.
Au tout début, les 5-6 premiers Grands Prix, ils étaient un peu à la ramasse. Moins maintenant, c'est vrai.
D'ailleurs, à partir de quel cylindrée on commence à gagner de l'argent? Moto 3, Moto 2 ou Moto GP? Parce que je sais qu'en Moto 3, on paye.
De quel cylindrée on gagne de l'argent?
De quelle catégorie, je veux dire?
Je pense que c'est à partir du Moto GP.
Que tu gagnes de l'argent.
Voilà, parce que.
Mais avant, non, tu payes.
Tu payes.
Tu payes ta saison.
Ah, ben oui, là, je peux confirmer.
Il faut ramener aussi des sponsors.
Qu'on puisse sortir les sponsors de Johan en 125 à l'époque, puis ensuite Moto 2, c'est une grosse somme. Et donc, déjà.
Donc, c'est au pilote aller se débrouiller pour aller chercher de l'argent, ou c'est son mentor qui fait, ou comment ça marche?
Dans le domaine des relations, il n'y a pas de limite. Hein. C'est comment tu trouves de l'argent, ça, c'est encore un vaste débat.
Ouais.
Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans l'entourage qui a dit il faut être bien entouré.
Il faut être bien né déjà. Faut être bien né. Comme de faire du cinéma.
Patrick Ponce était né d'une famille assez aisée, hein, je crois.
Olivier Chevalier, très aisé aussi.
Qui avait l'argent.
Mais pas tous, parce que il y avait en face la famille Michel Rougerie, prolétaire. Mais fils unique, ils ont quasiment tout donné pour lui. Donc c'était de toute façon, on en revient toujours à la même chose. Si t'es pas soutenu quand t'es jeune, comment tu veux y arriver, toi?
D'accord.
Michel Rougerie.
Voilà, on a terminé là avec Moto 3,
Moto 2. Moto 2.
Non, Moto 3, on n'a pas parlé du tout.
Alors, Moto 3, Moto 3 s'est plié. Le champion du monde, c'est Rueda, qui s'est bien planté il y a peu de temps d'ailleurs. Ensuite, pour le deuxième et troisième, là, c'est un petit peu compliqué entre Piqueras et Quiles. Quiles, qui a un rookie qui arrive, mais qui montre vraiment les dents.
C'est protégé de Marquez.
Il est très jeune.
Il est très jeune.
Il marche fort.
Même blessé, il a deux victoires cette année.
Et ensuite, pour le troisième, il y a quand même Munoz, Kelso et Carpe qui sont derrière. Et Carpe qui lui aussi est un rookie.
Il est un rookie lui aussi.
Alors il y a Perron qui s'est blessé, mais Perron il a fait de beaux résultats aussi.
Et puis il y a cette histoire avec avec l'accident qui s'est produit avec le Suisse Noah de Wittler.
Dead Villers.
Et il a fait un arrêt cardiaque Il a connu un problème technique sur le tour de chauffe et s'est fait percuter par Weda qui arrivait à fond la caisse dans son four de formation. Depuis, ça parle un peu parce qu'en fait sa moto à Dead Villers, elle a été abîmée lors de la session précédente. Et ils l'ont reconstruit. Et avant, il y avait le warm-up qui a été supprimé, qui permettait de valider une réparation. Là, la moto, elle n'a pas roulé, à part dans ce tour de chauffe, où elle est retombée en panne, depuis la réparation. Et donc, il y en a quelques-uns qui disent que le warm-up, il fallait peut-être pas, peut-être pas supprimer. Ça permettait de valider une réparation.
L'avenir nous dira s'ils vont conserver ou pas.
Il est supprimé là actuellement.
Je sais.
Ça servait à quelque chose quand même.
Oui, mais j'ai cru comprendre qu'ils préféraient faire passer les pilotes de MotoGP dans une charrette.
Exactement.
C'est grotesque.
C'est vrai, c'est ça.
Ça fait des chevaux.
C'est un tracteur avec une bétaillère.
C'est pas un char de Rio de Janeiro.
Et bientôt, on aura des courses de super bagarre.
C'est du nouveau possesseur qui remplace la Dorma, Liberty Media, l'américain.
Ils ont des grands projets.
Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai peur pour aller à la catégorie Moto 3 et Moto 2.
Ouais, moi aussi.
Ils en parlaient qu'ils allaient supprimer.
C'est aussi le promoteur de Formule 1.
Là, ils ont déjà dit que pour 2027, avec les 850, toutes les équipes seront classées comme indépendantes. Ils veulent un pied d'égalité total en MotoGP, donc il n'y a plus de constructeurs. Les constructeurs, ça sera un rôle de soutien de certaines équipes. Mais ils veulent que toutes les équipes soient indépendantes et qu'elles reçoivent un soutien financier égal. Actuellement, en fait, les équipes, en fonction de leurs revenus, elles sont épaulées par la Dorna. Et là, elles auront toutes la même chose. Et donc, ça va bouger. Ça va bouger dans tous les sens.
Je pense aussi.
Donc, c'est toujours le même problème. On fait du spectacle au lieu de faire de la compétition.
Je crois que c'est ça. Alors, comme il n'y aura plus de moto et que tu dis qu'on balade les pilotes en charrette.
C'est vrai, en bétaillère.
Il va y avoir les courses de bagueurs.
On va frotter les sacoches.
Tu sais ce que c'est, Bernard?
Comme Liberty Media, c'est américain.
C'est que Harley Davidson, attention. Apparemment, j'ai appris ça. Il n'y a pas de Hanjian, il n'y a rien.
Ça serait peut-être plus rigolo que les motos.
Donc, avec leurs sacoches.
Ils vont frotter les sacoches.
Ils font frotter les sacoches. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Vite fait, il reste une minute.
Du spectacle.
Je serais pas ému par ça.
Il paraît que ça marche aux USA, ça marche bien.
Le public américain, c'est autre chose. Quand tu vois, tu te rappelles Andy Sunday Tool, des années 70, tu sais, la vidéo, tu vois la grimper le mur, enfin, tu sais, les côtes.
La montée impossible.
Tout ça, c'est des choses. Le truc des dragsters, tout ça, c'est américain, quoi. Le plus, toi.
Oui, mais là, ça va venir en Europe, tu vois.
C'est normal. Tout ce qui arrive en Europe est venu d'abord à commencer aux États-Unis. N'oublions pas. Et maintenant qu'ils ont acheté, ils sont à la maison, maître chez eux.
Oui, c'est un milliardaire qui a acheté ce qui possède cette société-là.
Liberty Media, oui.
Il y a du pognon à plus savoir qu'on fait.
C'est Gordon Carré.
Qui est
président de la F1.
Bon, pour terminer, le calendrier 2026, toujours 22 courses, 22 rendez-vous. Donc ça va faire 44 avec la course sprint.
44. Et puis s'ils pouvaient en faire 50.
Tu crois? Non, les pilotes, ils ont râlé quand même.
Pilotes, ils râlent.
Bah oui, quand même, ça fait beaucoup.
Ils y arrivent encore.
Non, mais attends.
Attends,
Avec Liberty Media, ça sera, ça sera fini, ça.
Les pilotes peuvent se syndiquer, c'est ça?
Ouais, voilà, oui, syndiquer. Ouais,
oh, mais ils ont essayé à un moment.
T'es pas contre le syndicat, hein, quand même?
Bah, non, le groupe, syndicat ou pas,
il avait un surnom,
à partir du moment où les gens se groupent pour obtenir quelque chose ou interdire quelque chose, on peut pas être contre, quoi.
D'accord. Voilà, l'émission se termine. Merci Miguel d'être venu. Hein,
merci de m'avoir invité.
Tu habites à Mons, c'est la route quand même. Hein. Voilà, ouais. Donc pour ce, je rappelle le bouquin. Hein, donc
Elite Grand Prix Riders.
Grand Prix Riders, 480 pages et 2037 pilotes, hein, wow, qui ont marqué des points au championnat du monde de 49 à 2024. Merci, merci Bernard.
Merci, hein, voilà. Merci
la. J'espère que ce sera bien sur le film. Hein. Voilà. Ouais. Merci, merci Claude.
Ah, on était filmé. Hein.
On était filmé. Ouais. 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 Merci Balou, Jean-Pierre. Oui. Merci Nico.
Merci à tous.
Et on remercie qui est la
technique. Bon dimanche.
Laurent.
Avec la bonne musique.
Et passez un beau dimanche et on se retrouve dimanche prochain. Bye.
Salut.